C'est quoi ça, l'agribashing ?
Agribashing. On a pu être découragé à un moment et c'est possible, hein, vous savez, dans notre métier, c'est pas facile quand on entend comme ça sans arrêt des gens nous dénigrer. Mais là, je pense, moi, on est revigoré.
C'est Mathieu Noël et on a 20 minutes pour tout comprendre au phénomène de l'agribashing. À mes côtés, Manon Mariani, Quentin Lui et Cyril Lacarrière. Et bonjour Eddy Fougier.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi.
Merci à vous.
Eddy, vous êtes politologue chargé d'enseignement à Sciences Po Aix. Vous êtes fondateur de l'Observatoire du Positif. Et en 2020, vous aviez publié « Malaise à la ferme, enquête sur l'agribashing » aux éditions Marie B. Alors Eddy, ensemble on va étudier ce phénomène ou ce sentiment d'agribashing qui vient s'ajouter à toutes les souffrances déjà des agriculteurs. Mais déjà, Eddy Fougier, à part parce qu'ils nous nourrissent évidemment, pourquoi est-ce qu'il faut aimer les agriculteurs ?
Bah déjà oui, parce qu'ils nous nourrissent, on est un peu dépendant d'eux trois fois par jour au minimum. Certains ont plus de mal à se nourrir trois fois par jour, on le sait bien. Mais aussi parce que ils incarnent quelquefois avec des clichés, mais une certaine idée du territoire, de l'environnement, voire de la France d'antan. Vous avez fait référence à des dictons. Bon, il y a un petit peu ce cliché-là aussi dans le salon de l'agriculture. Et on va rechercher un peu la France d'avant aussi dans ce salon de l'agriculture.
Alors Cyril, d'où ça sort l'agribashing ?
Eh bien, c'est à un journaliste qu'on doit cette formule, Gilles Rivière-Weckstein. Il l'utilise pour la première fois le 10 mars 2016 sur ce qui s'appelle encore Twitter. Vous ne le connaissez peut-être pas, mais Gilles Rivière-Weckstein est le fondateur du mensuel Agriculture et Environnement. Oui, il existe. Et il est membre de l'Association française des journalistes agricoles. Oui, monsieur.
Et la pratique en elle-même, elle date de quand ?
Eh bien, selon vous, Eddy Fougier, c'est la profession agricole qui a commencé à en parler. C'était en 2015, un an donc avant que Gilles Rivière-Weckstein ne forge le terme. Et selon notre invité, avant même que la presse ne s'en fasse l'écho, puisque vous dites qu'elle n'a utilisé la notion d'agribashing qu'à partir de 2018. S'il a pris de l'ampleur, c'est grâce aux réseaux sociaux. Et dans le magazine Marianne, un agriculteur accuse la FNSEA d'en avoir fait un axe central de communication et au bout du compte, d'avoir fait de l'agribashing la préoccupation numéro un des agriculteurs, au point de masquer leur véritable problème. Alors, est-ce que l'agribashing est une réalité ou avant tout un hashtag bien pratique ? Qui n'aime pas les agriculteurs ? Qu'est-ce qu'on peut leur reprocher ? Quels sont leurs véritables problèmes ? Qui a intérêt à instrumentaliser la colère des paysans ? C'est ce qu'on va voir durant une heure.
Merci Cyril. Eddy Fougier, pourquoi la profession elle commence à parler d'agribashing avant même que le terme soit inventé ? Ça dit quelque chose ? Qu'est-ce qui fait qu'elle s'est sentie attaquée ?
Alors, il y avait l'expression un peu synonyme qui était agriculture bashing. On voyait
ah oui, c'est proche, oui.
On voyait que... Mais c'est assez intéressant de voir que c'est pas ça, celle-là qui l'a emporté. Ouais. Et ce qui est assez intéressant aussi, quand on analyse un petit peu à froid ce phénomène, c'est que beaucoup de filières ont essayé de surfer sur cette idée de bashing.
Se victimiser
Oui, le bank bashing, le chimie bashing, le food bashing. Mais le seul qui a dépassé le stade des réseaux professionnels, c'est l'agribashing. Quand on regarde juste la presse, le nombre de mentions dans la presse écrite de agribashing, c'est plus de 5000.
Mais parce que c'est un
food bashing,
parapluie,
c'est 30.
C'est un mot parapluie qui désigne, qui englobe peut-être les autres formes de bashing.
Oui, parce qu'il y a une spécificité du monde agricole. Et c'est assez intéressant de voir que l'agribashing commence à être repris dans la presse nationale au moment, novembre-décembre 2018, c'est au moment des Gilets jaunes. C'est-à-dire au moment où on a ce sentiment qu'une catégories sociales font l'objet, à tort ou à raison, d'un mépris de la part de certaines élites, de certains médias, que sais-je. Et ça explose littéralement dans la presse en septembre-octobre 2019, c'est-à-dire au moment du succès du film d'Édouard Bergeon, Au nom de la Terre. Et donc, on voit bien qu'il y a à minima une sympathie, voire plus envers le monde agricole, et à travers ce terme, par-delà les polémiques, les controverses qu'il y a pu avoir sur d'où vient le terme, est-ce qu'il est porté par tel ou tel syndicat, il y a une forme de sympathie et d'empathie vis-à-vis du monde agricole, comme on a pu le voir aussi au mois de janvier dernier.
Mais alors, côté agriculteur, ce sentiment d'être mal aimé, vous avez vous-même utilisé l'expression « à tort ou à raison ». Est-ce que c'est fondé ? Est-ce que vraiment il y a un agribashing ou c'est un ressenti ?
Moi, je considère plutôt qu'on est de l'ordre du sentiment. Et c'est déjà important, si vous avez un sentiment d'insécurité sur d'autres sujets ou un sentiment qu'il y a des inégalités croissantes, qu'on le veuille ou pas, ça a un sens. En tout cas, ce que j'essaie d'analyser, c'est plutôt effectivement l'impact que cela a. Et il y a un sentiment chez une partie des agriculteurs que, à tort ou à raison, il y a des critiques au mieux et au pire, un dénigrement assez systématique vis-à-vis de l'agriculture. Sur le fond, comment on peut mesurer ça? C'est très difficile parce que, justement, à un moment donné, du côté de l'agroalimentaire, on essayait de mesurer les reportages à charge, mais on n'avait pas nécessairement les reportages neutres et de l'autre côté, on n'avait pas les reportages dits positifs. Donc, d'un point de vue scientifique, on ne peut pas valider ça. Mais c'est ce que j'appelle un peu le syndrome de l'erreur d'arbitrage, c'est-à-dire qu'on ne voit les erreurs d'arbitrage qu'au détriment de notre équipe.
Il y a un autre problème sur lequel on va revenir dans l'émission, c'est qu'on parle toujours d'agriculture, mais en France, il y a des agricultures, des secteurs qui vont très bien, d'autres qui vont très mal. Donc, c'est peut-être pas le même ressenti et les mêmes critiques.
Oui, oui. Alors, elles se concentrent aux yeux des agriculteurs donc, qui expriment cette idée d'agribashing. Elles se concentrent sur un certain nombre d'activités, de pratiques. Bon, ne tournons pas autour du pot, principalement les pesticides et l'élevage, principalement l'élevage intensif. Mais ça va au-delà. Ça peut être aussi des problèmes d'incompréhension avec des voisins, le fameux coq qui chante ou le tas de fumier qui sent mauvais, mais ça peut être aussi des pratiques qui vont au-delà de l'agriculture, à savoir la chasse, voire, on le voit de plus en plus en ce moment dans les débats, le vote. Est-ce qu'il vote RN ou pas?
Eddy, en 2019, vous signez une tribune dans les Échos. Vous disiez que si les agriculteurs étaient populaires, c'était pas toujours le cas de l'agriculture elle-même. C'est quand même un sacré paradoxe, ça.
Oui, on apprécie les celles et ceux qui font ce métier, et pas nécessairement toujours à la même hauteur les pratiques, parce que quand on regarde les enquêtes, on s'aperçoit que les métiers considérés comme difficiles, c'était le cas dans les années 50, par exemple, des mineurs, ou des métiers où on sent effectivement qu'il y a des fins de mois difficiles. Il y a une empathie automatique.
Oui, les gens reconnaissent cette pénibilité.
Pour ces forçats des champs, comme on parle des forçats de la route pour les cyclistes. En revanche, il y a certains sujets qui font à minima l'objet de préoccupations, voire d'inquiétudes. C'est en particulier le cas des l'épandage de produits phytosanitaires ou le sort réservé aux animaux. On voit de plus en plus aussi que la question de l'eau, on va bientôt commémorer l'anniversaire de Sainte-Soline, le 25 mars, on voit que la question de l'eau devient un peu compliquée aussi.
Mais cette question de l'agribashing, elle nous met face à nos contradictions, en fait. On a besoin de l'agriculture, de toute façon. On la critique parce qu'on critique les pesticides, mais on se rend bien compte que pour nous nourrir tous, il faut bien, malheureusement, certaines techniques parfois modernes et parfois préjudiciables à l'environnement. En même temps, on veut préserver l'environnement.
Ce que soulèvent les agriculteurs à travers, pas uniquement la question de l'agribashing, mais à travers le mouvement qui s'est dessiné là depuis quelques semaines, ils posent un certain nombre de questions, à savoir effectivement le fait que sans doute, collectivement, on a choisi à un moment donné plutôt la consommation plutôt que la production. Et effectivement, on veut des produits qui ne sont pas chers. Donc très souvent, ces produits sont importés. Et sans regarder, et en étant un petit peu critique vis-à-vis des conditions de production, qu'on va tolérer lorsqu'on importe les produits, mais qu'on ne va pas nécessairement tolérer lorsque c'est à côté de chez nous.
Mais justement, est-ce qu'il n'était pas temps que ça arrive et qu'on mette vraiment sur la table le problème de l'élevage intensif, le problème de tout ce qu'on a, même sur l'environnement, sur les produits qu'on utilise et qu'on va mettre dans la terre, dans le sol?
Alors, moi je considère, et c'est un peu la thèse que j'ai essayé de développer dans ce livre, que l'agribashing n'est pas nécessairement une chance, mais une sorte de réveil collectif pour la profession, qui doit se poser un certain nombre de questions et notamment se poser la question des rapports avec le reste de la société. Parce que d'une manière ou d'une autre, sur le plan démographique, sur le plan sociologique, il y a eu un éloignement des agriculteurs et du reste de la société. Les agriculteurs ne connaissent pas nécessairement très bien le reste de la société, le reste de la société ne connaît pas nécessairement très bien l'agriculture et les agriculteurs. Donc c'était un moyen de reconnecter un petit peu les deux. Et je vais dire quelque chose qui est un peu choquant, mais grâce à l'agribashing, vous avez eu beaucoup d'initiatives qui ont été faites dans le monde agricole, notamment d'agri-youtubeurs, de youtubeurs qui ont décidé de prendre leur caméra et de montrer au quotidien ce qu'ils font, sur Twitter, maintenant devenu X, sur d'autres réseaux sociaux. Il y a plein d'initiatives qui ont existé à partir de 2016, justement, à partir de la montée de ces préoccupations dans le monde agricole par rapport à ces pratiques. Et certains vont plutôt communiquer sur ce qu'ils font et sur l'amélioration des pratiques, d'autres vont se poser des questions, justement, sur ce que vous aviez mentionné.
Aux racines de l'agrivéchine, si je comprends bien, il y a le fait que les gens ne connaissent pas bien, les citadins en tout cas, ne connaissent pas bien l'agriculture. En fait, ils ont le sentiment, peut-être les agriculteurs, que les gens commentent et critiquent des choses qu'ils ne connaissent pas, des processus de production qu'ils ne maîtrisent pas.
Oui, il y a exactement ça, mais c'est ce que l'on perçoit aussi dans d'autres secteurs d'activité. Si vous interrogez des médecins aujourd'hui, les médecins vont vous dire que leurs patients arrivent en leur disant « Moi, je ne suis pas médecin, mais ce que j'ai vu sur Internet... Ouais. » Bon, et donc, c'est quelque chose d'assez fréquent. Et l'agriculture est l'un des secteurs, c'est ça qui est assez étonnant, où la plupart d'entre nous, je me mets dedans... se donne le sentiment de savoir comment faire. Je me souviens d'une anecdote avec une éleveuse qui recevait des gens chez elle et elle montrait ses vaches à l'intérieur et les gens disaient « Mais pourquoi vous ne sortez pas ces vaches? Elles sont entassées à l'intérieur. » Et l'éleveuse leur a répondu « Mais c'est l'hiver, elles vont avoir froid. »
Oui,
voilà. Oui, mais justement, le fait que tout le monde ait un avis comme ça, on peut les comprendre aussi. C'est un peu aussi, on les prend de haut d'une certaine manière.
Oui, mais c'est ça aussi que charrie l'agribashing, c'est-à-dire ce sentiment, et ça c'est un peu dans l'inconscient des agriculteurs, ce sentiment que finalement, ils ne savent pas ce qu'ils font, ils font un peu n'importe quoi dans leur pratique, et il faut des tuteurs. Historiquement, il y avait ce sentiment aussi qu'au XIXe siècle, ils votaient mal, ils avaient voté pour Louis-Napoléon, il fallait les éduquer, qu'ils faisaient des mauvais choix et qu'il fallait, encore une fois, les mettre sous tutelle pour avoir des pratiques qui soient conformes aux intérêts du sol, des animaux ou de la planète. Et c'est aussi ce complexe d'infériorité qui ressort à travers aussi cette notion d'agribashing.
Mais est-ce que vous pensez aujourd'hui, on va aborder les questions écologiques tout à l'heure, mais qu'on va pas un peu dans le mur, au sens où, quelle que soit la bonne volonté des agriculteurs, à un moment, ils ne peuvent pas renoncer, j'imagine, complètement à leurs pesticides. Enfin, je ne sais pas si je me propulse dans la peau d'un agriculteur qui utilise pour atteindre ses rendements. Si on lui dit vous utilisez plus de ça, lui, il ne vit plus, en fait, donc c'est bien gentil. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a une solution ?
Moi, je ne suis pas ingénieur agronome. J'essaie d'analyser un petit peu ces phénomènes. C'est assez complexe. Et on le voit bien aujourd'hui, suite au mouvement qui s'est produit, à un certain nombre de décisions, notamment sur le plan éco-phyto, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a l'impression qu'on a basculé de l'autre côté et je trouve que c'est peut-être assez malsain d'avoir ce sentiment, et l'agribashing a un peu charrié ça, il faut le reconnaître, d'un jeu à somme nulle, c'est-à-dire soit vous produisez, vous faites de l'agriculture, soit vous êtes écolo. Je pense qu'on doit pouvoir arriver à essayer de combiner, tant bien que mal, un petit peu des deux.
Et pour parler d'agribashing, assez logiquement, Quentin, vous êtes allé interroger les gens au salon de l'agriculture.
Et alors que je marche dans ce grand hall 1 de la Porte de Versailles à Paris, je tombe nez à nez avec ce monsieur, sa canne en bois, sa casquette en velours, il y a du bruit, il m'entend mal, il comprend pas trop ce que je fais, je sors le micro et il part tout seul.
Disons qu'il y a de très beaux animaux et des éleveurs qui ont du mérite. Surtout dans les blonds d'Aquitaine, là.
Est-ce qu'on se dit bonjour ?
Oui, oui, bonjour, bonjour. Moi, c'est Albert, un ancien éleveur. Et j'étais en activité pendant 60 ans.
Où ça ?
En Normandie, dans le Domfronté.
Ah ben, je suis d'Alençon, moi.
Ah, vous êtes d'Alençon ? Oui, ben dans l'Orne, c'est bien ça.
Ben, l'Orne, évidemment, ça c'est un truc du salon de l'agriculture. Tu croises un mec de ta région, tu vois, c'est un truc assez basique qui arrive sur ce genre d'événement. Eh ben non, t'es content. Ça réveille le chauvin du petit provincial que je suis. Bref, connaît-il le mot du jour dans Zoom Zoom Zen ?
Agribashing.
Est-ce que vous savez ce que c'est ?
Non, pas exactement. Disons que c'est les jeunes qu'il faut aider. Hein ? Que là, ben, on les assomme avec de la paperasserie et tout le bordel dans des dossiers d'installation. C'est ça qui va pas.
Et il confond un peu agribashing et mesures politiques, mais bon, je lui demande ce qu'il observe de la rencontre entre les visiteurs et les agriculteurs.
Oui, oui, quand même. Moi, je suis arrivé il y a même pas une heure et demie. Je suis en train de faire mon tour, là. Beaucoup prennent des photos. Hein. J'ai eu mon smartphone. Ça prouve que les gens s'y intéressent. Quand on voit un lot comme il y a là, ben dis donc, les blonds d'Aquitaine, là, il y en a un, il fait une tonne et demie.
Une tonne et demie ?
Une tonne et demie, oui, ben faut pas le perdre.
On va pas le perdre, une tonne et demie, on va le voir. Je longe les vaches, les taureaux, les brebis, les cochons et je tombe sur mon ancienne maison. France Bleu, et je fais la connaissance de l'animatrice star de France Bleu Nord.
Bonjour, je m'appelle Pépé Lemar, je suis animatrice culinaire et j'ai 74 ans.
Elle anime des émissions qui réunissent des chefs et des éleveurs en allant directement dans les fermes. Elle en pense quoi de l'agribashing ?
Ah, on parle qu'on est toujours sur le dos des agriculteurs. Arrêtez de dire les agriculteurs polluent, les agriculteurs salissent les routes, ont des coqs et des poules qui chantent, et les agriculteurs, si on continue à taper dessus et ne pas leur donner ce qu'ils méritent, eh bien, on n'aura plus d'agriculteurs et puis ça sera terminé, ça sera la fin de la vie. Il faut absolument prendre conscience de ça, parce que c'est la vie, je vous le dis, mes chéris.
Comment on peut dire je t'aime à des agriculteurs en ch'ti ?
Et je t'équerre. Mais qu'est-ce que je t'équerre ?
Je longe un stand de poulet où on met une casquette crête sur la tête que j'ai ramené à Mathieu.
Voilà,
c'est dans cette tenue que je vois ce monsieur en costume entouré par tout un cortège. Il serre des mains avec sa barbe rousse, ses cheveux en brosse, ses lunettes carrées. Il me dit quelque chose. Normal, c'est le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau. Il est un peu surpris, je débarque comme ça. Bonjour Marc Fesneau.
Oui, bonjour.
Est-ce que je peux vous faire lire un mot ?
On va essayer, là, vous me prenez comme ça, là.
Vas-y,
ouais. Agribashing, c'est ce qui nuit à l'agriculture et c'est ce qui fait que les agriculteurs sont aujourd'hui découragés, ont le sentiment de ne pas être compris.
Mais alors, est-ce qu'il faut renouer le dialogue entre les agriculteurs et les consommateurs ? Pour Marc Fesneau, c'est pas ça le problème.
Non, mais l'agribashing, c'est une minorité qui se répand sur des réseaux sociaux ou parfois dans les médias et qui vient taper les agriculteurs. Les agriculteurs, ils sont prêts à discuter. Hein. Il y a juste un moment où, quand vous avez en face de vous des gens qui passent leur temps à vous insulter, qui passent leur temps à dire que l'agriculture française serait la pire du monde alors qu'elle est sans doute la meilleure du monde, y compris sur les sujets environnementaux. Donc il y a des gens qu'il faut renoncer à convaincre, parce que de toute façon, le postulat de base, ils n'en sortiront jamais. Le dialogue, c'est pas « j'ai ma position et j'en bougerai pas », parce que sinon, ça s'appelle pas un dialogue, ça s'appelle un monologue. Et c'est comme ça qu'on arrive à l'agribashing.
Étonnant quand même d'entendre dans la bouche d'un politique qu'il y a des gens qu'il faut renoncer à convaincre. Lui, il ne veut convaincre personne. Le salon, c'est son rituel annuel. Bonjour.
Bonjour, je m'appelle Guylain Mascot, j'ai 44 ans et je suis agriculteur dans le Nord, à côté de Douai et Cambrai.
Il m'a entendu discuter avec le ministre de l'Agriculture. Je lui demande ce qu'il en pense.
Je pense que l'agribashing, c'est arrivé. Une minorité de gens parlent de l'agriculture sans la connaître. Notre génération, on est vraiment prêt, on est mieux formés. Moi, par exemple, j'ai fait des études qui s'appelaient « Sciences de l'agronomie et de l'environnement ». Et je pense être plus calé, je vous assure. C'est pas que les trois quarts des gens qui parfois nous dénigrent, mais même nos aînés, maintenant, ils ont compris. Tout le monde s'y met. Et ça, je le dis à toutes les gens qui peut-être connaissent moins et qui pensent que les agriculteurs sont des pollueurs. C'est faux. Ça n'est plus vrai.
Avant de repartir, je lui demande comment il va et si ça l'atteint, tout ça, dans ce bruit ambiant.
On a pu être découragé à un moment, et c'est possible, hein, vous savez, dans notre métier, c'est pas facile quand on entend comme ça sans arrêt des gens nous dénigrer. Mais là, je pense, moi, on est revigoré, et on est revigoré parce qu'on a vu aussi que plus de 90% des Français nous soutenaient dans la mobilisation. Ce qu'on veut, c'est améliorer les choses, mais qu'ils soient cohérentes avec le terrain. On veut améliorer l'environnement avec les consommateurs, et pas contre les pouvoirs publics ou contre les consommateurs.
Alors comment construire un futur qui rassemble ? Comment lier productivité, rentabilité et environnement ? Pourquoi demander aux agriculteurs de produire moins si ensuite on importe pour pallier un manque ? Est-ce que j'ai donné ma casquette à Marc Fesneau ? Toutes ces questions, à voir si c'est vraiment bon signe de rester coincé dans ce qu'on appelle l'agribashing.
Ça lui serait bien allé, hein, Marc Fesneau, la casquette.
Il
ça rend sympathique. Il a refusé, il a pas voulu la porter, alors que moi j'ai accepté. C'est la différence entre le ministre de l'Agriculture et moi.
Ouais.
Y a-t-il une tendance à l'agribashing en France ? On en parle cet après-midi avec vous, Eddy Fougier. Vous êtes politologue, je rappelle votre livre « Malaise à la ferme » enquête justement sur l'agribashing. On vient d'entendre l'émotion aussi dans la voix de Guylain, cet agriculteur des Hauts-de-France. On se trompe de combat quand on oppose, ce qu'on fait souvent, environnement et agriculture.
En tout cas, c'est pas la bonne base pour effectivement essayer de dessiner un récit qui fasse envie aux agriculteurs de se lever le matin et fasse envie aussi, et c'est un enjeu absolument essentiel, il faut qu'on s'en rende compte, aux jeunes agriculteurs ou à celles et ceux qui veulent s'installer, parce qu'on sait très bien qu'il y a une grande partie, plus d'un tiers des agriculteurs qui ont 55 ans et plus et qui vont partir. Et donc, c'est en gros l'avenir de la ferme France qui se joue, pour reprendre un cliché. Et donc, cela, effectivement, si l'atmosphère générale semble être à la critique ou morose, ils ne vont pas avoir envie de s'installer D'autant que, au-delà de l'agribashing, les bruits que l'on entend, c'est les un tiers ou un cinquième des agriculteurs qui sont sous le seuil de pauvreté, les suicides, le surendettement, etc., etc. C'est vrai que ça ne fait pas très envie.
Je suis un peu surpris par la réaction du ministre de l'Agriculture. Il dit qu'il y a des gens qu'il ne faut plus chercher à convaincre. Quel message on envoie quand on dit ça? Même quelqu'un qui n'est pas d'accord avec l'agriculture, on doit pouvoir, même sur le salon d'agriculture, échanger.
Pourtant, il y avait des conseillers du président qui voulaient inviter des gens qui étaient difficiles à convaincre. Mais au-delà, je m'y mets moi aussi. mais plus sérieusement, non, mais c'est un type de discours que l'on entend un petit peu. En gros, le discours que l'on entend souvent dans les mondes agricoles, c'est de dire il y a 10% d'inconditionnels qui nous suivent, il y a 10% de personnes qui vont nous critiquer systématiquement, ça sert à rien de les convaincre, et puis le reste, la majorité silencieuse, et c'est à celle-là qu'il faut s'adresser. C'est plus dans ce sens-là, je pense.
On entendait dans le micro-trottoir Pépé, c'est ça ?
Pépé Lemar.
Qui parlait, qui énumérait des clichés qu'on a sur les agriculteurs. J'ai l'impression qu'en fait, c'est toujours les mêmes. Ils n'ont pas évolué dans le temps.
Oui et non. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de clichés sur les agriculteurs et le monde agricole. Mais juste regardons dans le rétroviseur, il suffit de voir toutes les expressions ou tous les termes à propos du monde paysan. Avant, c'était affreux. C'était une honte sociale de venir du monde agricole. Aujourd'hui, on le revendique sur France, sur les antennes de France Inter ou ailleurs. Regardons tous les termes. Paysan, c'était une insulte. Les ploucs, les...
Il y a
une vision extrêmement péjorative vis-à-vis du monde agricole, vis-à-vis du monde paysan, que l'on n'a plus nécessairement. Alors aujourd'hui, on est plus dans le cliché que dans le mépris. C'est déjà une évolution.
Est-ce que les agriculteurs ne sont pas un peu instrumentalisés aujourd'hui, utilisés par les politiques, sans vraiment qu'on s'intéresse finalement à leurs problèmes ?
On s'intéresse un peu à leurs problèmes, mais effectivement, l'instrumentalisation, je dirais, commence depuis une dizaine d'années. C'est-à-dire qu'avant, il n'y avait pas nécessairement de clivage entre les principaux partis, les principaux candidats lors des élections présidentielles sur les questions agricoles. Aujourd'hui, il y a un peu ça. C'est-à-dire qu'il y a... sans être caricatural, mais c'est un petit peu « dis-moi ce que tu manges, je dirai ce que tu vas voter » ou « dis-moi ce que tu votes, je dirai ce que tu vas manger ». On a parlé de la gauche quinoa, on a vu pendant la présidentielle un certain nombre de sorties de tel ou tel candidat ou telle ou telle candidate sur la viande, sur la bonne bouffe, etc., etc. Donc le positionnement aujourd'hui sur l'agriculture et sur l'alimentation est politisé. Donc les politiques instrumentalisent ça. Après, ils instrumentalisent aussi la contestation, là on le sent.
Alors là, on parle côté politique, mais côté agriculteur, on est assez réactif aussi à cette politisation. Est-ce que les agriculteurs, ces dernières années, se sont politisés, dans un sens ou dans un autre sens ?
Alors déjà, il y a une grande fragmentation du monde agricole, y compris sur le plan politique. Vous avez des agriculteurs qui votent communistes, vous avez des agriculteurs qui votent RN, il y a un petit peu de tout.
Majoritairement, il y a plus d'agriculteurs qui votent RN que communistes, d'après les sondages.
Oui, mais... les sondages, c'est compliqué parce qu'ils sont de moins en moins nombreux, donc ils sont vraiment une portion congrue dans les échantillons. Mais majoritairement, ils votent conservateurs, en clair. Bon, alors aujourd'hui, on peut supposer qu'ils se partagent à peu près à égalité dans le vote conservateur entre ceux qui sont plutôt Renaissance Macron, ceux qui sont plutôt la vieille maison LR, et puis celles et ceux qui sont plutôt tentés par un vote RN. Les agriculteurs, un, votent beaucoup, deux, sont pragmatiques, c'est-à-dire ils votent pour souvent le gagnant, parce qu'ils veulent avoir un impact sur la prise de décision, plutôt que juste le coup de gueule de temps en temps.
Mais est-ce que vous pouvez essayer de nous expliquer ce qui s'est passé à l'ouverture du salon de l'agriculture, où on a vu ces affrontements, le président de la République est arrivé à redresser ses manches, il a parlé avec eux dans une pièce, est-ce qu'il est ressorti quelque chose ? On a l'impression que ça s'est éteint après. Est-ce qu'ils ont gagné, obtenu quelque chose ?
Déjà, pourquoi ça s'est passé comme ça ? Il y a eu la conférence de presse avant, l'idée... parce qu'il y a eu un timing un peu étrange, c'est-à-dire qu'il y avait des négociations en amont entre les principaux syndicats et le Premier ministre, et le ministre de l'Agriculture, des annonces qui avaient été faites notamment le 1er février. Donc, on avait le sentiment que les choses avançaient et que, du côté des agriculteurs, on attendait la concrétisation de ces annonces. Et puis, d'un coup, le président de la République arrive, on l'avait assez peu entendu, en disant « on va faire un grand débat ». Donc, il y avait un petit peu le sentiment qu'on savait à peu près où on allait, et d'un coup, on se demande où on va. Et en plus, avec cette idée d'inviter peut-être des individus et des groupes qui n'étaient pas nécessairement très pro-agricoles.
Les soulèvements de la terre,
pour ne pas les citer. Et donc, c'est pour ça qu'il y a eu cette bronca au début, juste pour marquer un petit peu le territoire, pour rappeler sans doute un coup de pression, comme on dit, pour rappeler au président de la République un petit peu que les agriculteurs étaient présents et qu'ils n'étaient pas nécessairement très enthousiastes à cette idée de grand débat, parce que la dernière fois qu'il y a eu des grands débats, pour eux, c'est Egalim et le Grenelle de l'environnement. Donc, c'était pas terrible de leur point de vue.
Un mot, c'est pas un monde uniforme, hein, l'agriculture, il y a des guéguerres internes. L'essayiste Gilles Luneau dit que la FNSEA, donc c'est la première centrale syndicale agricole française, manipule les perceptions du malaise du monde agricole. Vous êtes d'accord avec cette analyse?
Gilles Luneau est celui qui déteste le plus la FNSEA en France, donc bon, il n'est pas tout à fait
neutre.
C'est neutre sur le sujet. Je dirais, le rôle des syndicats est d'essayer de canaliser, et on l'a bien vu dans la période récente, cette colère. Tous les syndicats sont dans cette logique-là. Parce que du côté de la Confédération paysanne, il y a aussi une colère qui s'exprime. La coordination rurale, on voit bien que la colère est particulièrement prégnante. Donc, on l'a vu dans la période récente, il y a une sorte de coulée de lave et ils essaient de canaliser tant bien que mal. Et la particularité de la FNSEA, c'est qu'il y a à la fois ces mobilisations et puis cette habitude de négociation qu'on n'avait pas nécessairement vue avec d'autres mouvements sociaux comme les Gilets jaunes. Donc c'est ça qui peut choquer un petit peu, c'est-à-dire que d'un côté, on bloque, on sort les tracteurs, et puis de l'autre côté, on négocie avec le ministre. Donc il y a un petit côté dissonant, mais ça fait partie du jeu. Après, encore une fois, Gilles Luneau a écrit de nombreux ouvrages avec José Bové, porte-parole de la Confédération paysanne, on est dans une guéguerre classique.
Et sur le fond, pourquoi est-ce qu'il existe une contestation du mode de production agricole conventionnel? Est-ce que c'est pas ça la clé? Est-ce qu'à un moment, on va se mettre autour de la table et on va être d'accord pour remettre en cause le modèle agricole tel qu'il est aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont prêts à ça, les agriculteurs?
Alors, l'agribashing, c'est, je dirais, la critique du mode de production agricole conventionnel est assez ancienne. Dans les années 80, il y avait déjà cette critique sur, à l'époque, le scandale du veau aux hormones ou d'autres aspects. Donc, ce qui est nouveau, et c'est ce qui a amené un petit peu cette idée d'agribashing, c'est que cette critique s'est intensifiée, elle s'est élargie, et surtout, avant, on était plutôt sur la critique, par exemple, d'interdiction des pesticides les plus dangereux et d'avoir un usage raisonné. Aujourd'hui, on est plutôt sur l'idée qu'il faut arrêter immédiatement tous les pesticides de synthèse. Même chose sur l'élevage, où on critiquait certaines pratiques de l'élevage et maintenant on veut remettre l'élevage en tant que tel. Donc c'est ça qui a un petit peu changé.
Pardon Élie, mais sur cette question par exemple, des pesticides, quand on n'y connaît rien, on est écolo, on se dit oui, interdisons tous les pesticides tout de suite. Mais concrètement, pour un agriculteur, est-ce que c'est possible?
C'est compliqué, on l'a vu.
Il y a des substituts.
On l'a vu à propos des betteraves, je suis désolé de rentrer dans...
Mais il y a
un puceron qui transmet une maladie aux betteraves et on a interdit les néonicotinoïdes qui permettent de lutter contre ce puceron. Et il n'y avait pas de substitut, d'alternative et résultat...
Fin de la production de betteraves.
Et donc, on était obligé d'importer. Donc, c'est compliqué. Sans doute, il faut être honnête que certains agriculteurs n'ont pas trop envie de passer à une alternative parce que c'est plus facile, parce que c'est plus simple.
Mais d'autres ne peuvent certainement pas.
Mais de l'autre côté, on voit bien que du côté de la recherche, je ne vais pas citer des instituts, mais ils ne font pas nécessairement beaucoup d'efforts pour essayer de trouver des alternatives.